Parole d'auteur. Parole d'auteur. Christophe Hyde.
Dire que les technologies du numérique ont changé notre vie en moins d'une génération est un constat qui tient du lieu commun. Tout va très vite, de nouveauté en nouveauté, sans que nous nous arrêtions pour y penser. Pourtant, les technologies sont-elles neutres ? Est-ce notre usage qui change le cours de nos vies ? Ou induisent-elles, ces technologies du numérique, par elles-mêmes, ces changements ? Le livre de notre invité d'aujourd'hui n'est pas un livre de philosophie sur les technologies de l'information ou de sociologie sur la postmodernité. Il s'agit d'un roman d'action où le lecteur croise des PDG de multinationales souvent milliardaires, des académiciens, des puissances masquées et influentes et des résistants à une marche forcée vers le plus de technique. Les masques tomberont après bien des péripéties, laissant entrevoir une lutte d'influence aussi complexe qu'une partie d'échecs. Dans ce polar politique, ce roman d'anticipation, cette dystopie, les destins des personnages seront bouleversés par leurs choix ou par leur manque de clairvoyance. Au-delà de la fiction très réussie qui tient en haleine le lecteur, c'est un livre qui donne un pensée sur le monde numérique qui émerge sous nos yeux. Nous accueillons aujourd'hui Jean-Pierre Noté pour son roman intitulé « Tantième » paru chez AZ Art, Atelier Édition.
Bonjour.
Bonjour Jean-Pierre Noté, merci d'avoir accepté de participer à Parole d'auteur. Alors vous nous donnez à lire un livre dont l'action se situe à la fin des années 2020, au début des années 2030, dans un futur proche, encore plein de références au monde d'aujourd'hui. Alors pour son premier chapitre, le livre débute par un homicide, celui d'un homme par une femme, cette dernière s'appelle Aline. Alors évidemment, nous ne dirons rien, ni des circonstances, ni des motivations de cet acte violent, mais dès le deuxième chapitre, nous faisons plus avant connaissance avec cette femme, Aline, qui n'a vraiment pas le profil d'une meurtrière. Alors, qui est-elle ?
Aline. Aline, c'est avant tout quelqu'un de très brillant et qui a une grande ambition. On dirait aujourd'hui, en employant des mots franglais, c'est une start-upeuse à qui tout réussit et elle est à la tête d'une société internationale. De jeunes consultants qui sont aussi très brillants et elle travaille en Afrique en particulier et s'intéresse beaucoup à tout ce qui touche aux langues. Un de ses travaux consiste par exemple à proposer dans un pays qui s'appelle le Bénin des possibilités de facturer les clients de plusieurs sociétés béninoises dans la langue préférée de leurs clients, qui peut être le français, mais qui peut être aussi tout un tas d'autres langues locales.
Et donc c'est la PDG d'une société qui s'appelle Time Expert.
Voilà. Là aussi, nous sommes dans le franglais. Bon. Donc elle réussit très bien. Et par ailleurs, elle a un amour très particulier. C'est son hôtel particulier, si je puis dire, qui est un hôtel Renaissance à Toulouse, un hôtel qui date de l'époque du pastel, qu'elle ne cesse d'agrandir, de rajeunir, de bichonner dans tous les sens. C'est sa vraie passion. Et elle a d'ailleurs racheté toutes les parts de cet hôtel, elle a les moyens, sauf une petite loge qui appartient à un prof de français qui s'appelle Simon Marchand.
Alors, oui, on y reviendra à ce Simon Marchand, mais restons sur Aline Regensberg, puisque c'est son nom. Alors c'est une tête bien faite, a priori, c'est une première de la classe.
Oui, tout à fait.
Une fort en thème.
Oui.
Une executive woman.
On peut dire ça.
Voilà. À un moment, au détour d'une phrase, on dit qu'elle carbure au risque.
Tout à fait. Donc, son truc à elle, je vais encore utiliser le franglais, parce que ça fait beaucoup partie de ce livre, c'est une businesswoman et elle considère le monde comme une juxtaposition de business plan, et le sien devrait être évidemment le plus gros, le plus réussi, le plus parfait. Donc elle n'hésite pas à prendre des risques, elle n'hésite pas à prendre contact par exemple avec le président d'une énorme société américaine pour lui proposer ses services.
Oui, parce qu'elle a une intuition en fait. Ce qu'on peut dire, c'est que son titre de gloire, en effet, dans son expérience du Bénin, c'est de dire que la langue en soi peut être valorisée d'un point de vue capitalistique, à travers la numérisation du monde.
Absolument. Donc, en fait, je pense qu'elle a une pensée qui se tient. Hein. Qu'est-ce qui peut encore être privatisé dans ce monde ? Ben, il reste une chose sur laquelle on ne s'est pas encore penché, ben, ce sont les langues. À la limite, on pourrait dire, ben, vous partez en vacances en Grèce, vous voulez parler grec, à ce moment-là, il faut payer pour parler grec, pourquoi pas. Donc elle a cette idée qu'on peut privatiser la langue. Et elle tombe d'accord avec le PDG d'une très grande société américaine qui s'appelle Babel, et ça n'est pas pour rien si ça s'appelle Babel, qui fait en quelque sorte le commerce de la langue anglaise et qui a racheté tous les dictionnaires anglais, tous les jeux anglais comme le Scrabble, etc. Et qui est devenue la plus grande société au monde.
Alors cette société Babel, elle est dirigée par Mike Konakis. Mm-hmm. Hein? Donc ça, il a un diminutif, hein, c'est...
3K.
Ouais. 3K.
3K, effectivement.
Ça m'a fait penser un peu à Jean-Marie Messier, vous savez, au détour des années 2000, qui était le PDG de Universal, et que les médias appelaient J2M.
J2M, ouais. Absolument, ouais.
3K. Alors,
on l'appelle 3K, et en fait, pourquoi les Américains l'appellent-ils 3K ? C'est parce que Mike Konakis, c'est quand même, pour un gosier anglo-saxon, c'est quand même quelque chose un peu difficile à dire. Et donc, c'est une façon très américaine de ramener son nom à quelque chose qui sonne bien pour des anglo-saxons.
Alors, Aline, moi, au départ, j'ai quand même un sentiment un petit peu mitigé la concernant, c'est-à-dire que devient-elle... une supplétive ou une associée de ces géants, de ce géant américain presque, voilà, elle se met un peu en service commandé d'une certaine manière.
Elle se met en service commandé, tout à fait, parce que elle va lui proposer ses services parce que Mike Konakis, ce fameux 3K, a mis la main sur la langue anglaise, mais il y a d'autres langues internationales qui, même si elles sont moins importantes que l'anglais, elles compte quand même, en particulier en Afrique. Et c'est, parmi ces langues internationales, il y a l'espagnol, le portugais, mais il y a aussi le français. Et pour mettre la main sur le français, il faut mettre la main sur l'Académie française.
Ah oui, voilà. En France, nous sommes quand même des Gaulois réfractaires, c'est issus d'une longue tradition culturelle et qui veille sur le français, la langue, c'est évidemment l'Académie.
Voilà, tout à fait. Et donc, pour mettre la main sur l'Académie française, ben, le fameux 3K se dit « je dois trouver quelqu'un qui connaît bien les rouages du gouvernement français, etc., pour essayer de convaincre les gens de s'emparer de l'Académie française. » Et donc, c'est là qu'Aline va donner le meilleur d'elle-même. Elle va... convaincre...
Il y aura des résistances.
Il y aura des résistances, de nombreuses résistances.
Au premier chef, l'un des tout derniers élus à l'Académie française.
Qui s'appelle Alain Calife-Crantel. Peut-être reconnaîtrez-vous si vous arrivez à mettre les consonnes dans le bon ordre de qui ce personnage est inspiré.
Mais vous le dites, Alain, il y a une note au début de votre ouvrage.
Voilà, je vous laisse le dire.
ce sera donc Alain Finkielkraut qui se fera le résistant à la privatisation de l'Académie française dans une joute verbale à travers un discours très brillant, mais auquel répondra...
Tout à fait.
Aline, ouais. Avec autant de brillants.
Absolument.
Ouais. Donc, l'action se déroule sur plusieurs continents, on l'a dit, hein, mm-hmm. En France,
en
à
Californie.
Toulouse, en Californie. Et donc, vous le disiez tout à l'heure, cette Aline, elle a, je dirais, c'est pas. Elle a des racines, ou en tout cas un attachement particulier à Toulouse.
Oui.
Et donc, revenons un peu à cet hôtel du Vieux Raisin.
Oui.
Parce que c'est, je dirais...
Oui, c'est un personnage à part entière du roman, on pourrait dire ça. Alors, cet hôtel du Vieux Raisin, c'est un hôtel qui existe. J'en ai fait un être hybride parce que je me suis inspiré de plusieurs hôtels toulousains qui datent de la même époque, donc cette époque du pastel où l'économie toulousaine était florissante. Donc c'est du 15e et du 16e siècle dont je parle. Et donc Aline a son hôtel du Vieux Raisin, avec sa tour d'orgueil. Il y a de nombreuses tours d'orgueil dans Toulouse. Celui-ci en a une absolument magnifique. Elle a l'habitude d'aller observer Toulouse tout en haut de son hôtel du Vieux Raisin, et elle voit plusieurs choses qui l'intéressent beaucoup. Elle voit le Mont Valier au sud, qui est une montagne ariégeoise. Et elle voit aussi, ou du moins elle croit voir, c'est un petit peu plus difficile à mon avis depuis Toulouse, mais elle espère voir plus à l'est une petite montagne très lumineuse qui s'appelle le Caroux, qui se trouve au nord de Béziers.
Et en regardant ce Caroux au nord de Béziers, il y a toujours quand même cette, je dirais, une petite voix qui lui dit « J'aimerais avoir cet hôtel du Vieux Raisin à moi seul ». Et il y a ce caillou dans la chaussure, ou plutôt celui que vous appelez le village gaulois d'Aline, qui est ce Simon Marchand.
Ouais.
Et qui donne, au fond, la réponse à la question que j'avais posée sur le titre du livre, tantième. Ce Simon Marchand, si on fait 1000 moins 923, il a 77 tantiennes de la
copropriété.
Et alors qu'elle a pu se défaire des crédits, du crédit, enfin de différentes banques, de différents cabinets d'avocats.
Exactement, qui occupaient ce Vieux Raisin. Donc petit à petit, son expansionnisme a fait qu'elle était propriétaire de la quasi-totalité du Vieux Raisin, à l'exception de ce petit prof de français qui tient une loge absolument minable, enfin toute petite du moins, et dont elle ne veut pas se débarrasser.
Alors lui, il n'est pas fait du même bois que Aline Regensberg. Il est en trottinette.
Oui.
Il n'a pas de téléphone.
Non.
Pas de voiture. Et il semble plutôt rétif, voire rebelle aux technologies.
Il est très rebelle aux technologies. Et il y a une chose qui l'intéresse, c'est la nature. Mais quelque part, chez Aline, qui aime bien son valier, qui aime bien son Caroux, qui n'a pas le temps d'y aller parce qu'elle est tout le temps dans les avions, hein, cette jeune femme très ambitieuse, quelque part, elle n'est pas totalement indifférente à la façon de penser de Simon, même si elle ne veut absolument pas se l'avouer et qu'elle veut absolument le faire fuir de son hôtel du Raisin. Et ils ont un autre point commun, c'est que lui-même, il adore l'hôtel du Vieux Raisin, voire il le connaît mieux qu'elle, dans tous ses détails architecturaux.
C'est ça. Et ce Caroux aussi, lui, il y est allé. Enfin, il a des amitiés, il a des acquaintances, en particulier avec un couple qui s'appelle le couple Recker.
Voilà.
Si j'ai bien lu.
Alors, le couple Recker.
C'est aussi un avatar. On avait parlé d'Alain Finkielkraut en Alain Calif Kuntel.
Oui.
Et donc, nous avons le couple Recker.
Alors, le couple Recker est inspiré du couple formé par Jean-Claude Carrière et sa femme iranienne, et dont j'ai changé le nom aussi, qui s'appelle Zoré dans Tantième. Et effectivement, Jean-Claude Carrière est issu d'un petit village qui s'appelle Colombières-sur-Orbe, qui se trouve dans le Caroux. Voilà, donc tout ceci n'est absolument pas inventé. Et donc, Simon Marchand, qui est un amoureux de la nature, va faire de l'escalade, va pêcher la truite dans le Caroux et est hébergé dans ses évasions montagnardes, est hébergé par le couple Recker. Et finalement, il se fait que il va trouver un compromis avec Aline et...
Oui, ils finissent par se retrouver. À l'occasion, il y a eu l'équivalent des gilets jaunes. Ils ont un problème de feu, de porte, etc. Il faut bien se rassembler. Et finalement, on découvre qu'on a le même amour pour le Caroux. Et j'aimerais lire un passage justement de cette rencontre où tout d'un coup, l'un et l'autre découvrent qu'ils ont des racines dans ce lieu des Pyrénées. Je vais lire ce passage. Chacun essayait d'en remontrer à l'autre sur sa connaissance intime du Caroux. Elle lui demandait s'il se souvenait du chemin sur la droite, tout en haut du col de la pierre plantée, qui filait au milieu des genêts et des derniers châtaigniers. Simon répliquait en évoquant le sentier qui démarrait pile en haut du col des 13 vents, s'enfonçant dans un bois de chênes verts qui abritait en juin des cèpes durs comme du schiste. Quand Aline parlait écrevisse du buissou, Simon répondait truite de madale. Il suffisait qu'elle prononce le mot plosenus pour qu'ils évoquent les rapides de Tarassac. Alors qu'elle vantait les framboises de douche, il renchérissait sur la gneiss œillet garnie de grenat et parfois même de petites émeraudes qu'on trouvait aux alentours de Rosis. Elle lui racontait le barrage de l'Airette, il lui dépeignait les maisons en pierre de Colombières-sur-Orbe. Je pourrais continuer, mais c'est un pays de cocagne.
C'est un pays de cocagne, ça me fait très plaisir que vous lisiez ça, parce que j'ai l'impression d'y être, et puis vous avez compris que ce Simon, bon, finalement je partage pas mal de choses avec lui, ainsi qu'avec Aline, en particulier l'amour absolu du Caroux. Voilà.
Oui, ça donne envie d'y aller. Vous pouvez vous transformer en guide. Vraiment, c'est en tout cas, on a envie d'aller voir de plus près. Donc, on a fait connaissance d'Aline, on a fait connaissance de Simon, on a fait connaissance de leurs différents amis, et puis de cet enjeu principal, et en tout cas premier au début du livre, qui est celui de se mettre dans la poche l'Académie française et de pouvoir avancer dans ce qu'il faut bien dire, en un mot encore en franglais, dans le business.
Dans le business, oui. Voilà. Dans le business d'Aline, voilà. Et de Time Expert.
Voilà. Et ce projet d'Aline, c'est racheter les dictionnaires de français, de professionnaliser l'ensemble, je lis encore, en profiter pour toiletter, rajeunir la langue, la rendre attrayante, voire amusante. Aline s'étendit un peu sur les jeux en ligne tournant autour du français. Time Expert avait déjà une kyrielle de propositions pour la nouvelle académie, dont la nouvelle académie pourrait s'emparer. Cela générerait des ressources colossales. Chaque connexion sur les dictionnaires ou sur les jeux engendrerait des publicités, une meilleure connaissance des internautes, des reventes de fichiers toujours plus ciblés, toujours plus précieux dans les entreprises marchandes du monde entier. Il va falloir convaincre Simon.
Il va falloir convaincre Simon, mais elle a un bon argument. Mmh. Et je pense qu'on peut être d'accord avec elle. Tout ce qui se diffuse aujourd'hui est largement américain, largement anglo-saxon. Et donc son argument, elle, c'est de dire, mais si on ne prend pas le train en marche, eh bien, on va le regarder passer, et puis finalement, le français va perdre absolument toute sa gloire passée, et le monde non seulement ne parlera qu'anglais, mais en plus ne diffusera que des œuvres anglaises. Mmh. Donc je crois que dans ce bouquin, on fait dire à Aline à un moment, si vous voulez qu'on connaisse encore Cyrano de Bergerac, si vous voulez qu'on connaisse encore Jules Verne, si vous voulez qu'on pense que Jules Verne est français et non pas américain, il faut aussi s'y mettre et professionnaliser tout ça, diffuser toute cette culture française qui sinon va être totalement éclipsée par la culture anglo-saxonne. Elle a un bon argument.
Très bien. On poussera un peu plus loin, parce que si l'argument est bon, ensuite l'association avec 3K et la Silicon Valley, la Californie, d'après les GAFAM, ça va être une autre paire de manches. Écoutez, Jean-Pierre Nautet, j'aimerais faire une première pause. Alors, habituellement, on donne des extraits musicaux. Là, c'est un extrait un peu particulier. C'est un extrait qui m'a inspiré la lecture de votre livre, en partant de votre futur proche, où tout est quantifiable par la numérisation des données. Je vous propose d'écouter « Les chiffres du jour » de Jérôme Minière.
Aujourd'hui, les marchés se sont plutôt bien comportés. Indice qui somme nous moins 0,05, indice où allons-nous 1,5, indice d'où venons-nous 4,0, indice mystère et trou noir moins 0,9, indice individuel 29,0, sens de la vie 4,8, confiance en soi 0,6. Température du corps 37,25, température extérieure 21 degrés. Jouissance des biens matériels 0,8. Fréquentation des toilettes 3,0. Nombre de mots employés 182. Poésie effective réelle 11,1. Taux de culpabilité moins 14,3. État du réel 3,1. Sensation du temps qui passe 4,8. Chiffrement du réel 2,7. État du possible 0,8. Demande affective effective 1,5. Offre affective effective partage 1,3, difficulté surmontée 1,7, degré de partage 0,2.
Parole d'auteur. Christophe Hein.
C'était les chiffres du jour de Jérôme Minière. Alors, j'ai pas voulu vous en imposer plus longtemps parce qu'il y a quelque chose d'un peu anxiogène derrière cette énonciation de chiffres. Mais qu'en avez-vous pensé, Jean-Pierre Noté? Est-ce qu'il s'agit d'une illustration de la numérisation des données du réel, de la puissance des data? Est-ce que tout est quantifiable?
Alors, ce que j'en pense très exactement, c'est que, en fait, ça vous endort. Et Aline, qui est une businesswoman, elle est endormie. C'est-à-dire que sa chose à elle, c'est de ne pas se poser de questions. Elle fait du business. Et donc, elle aligne des chiffres.
Et surtout pas de politique.
Et elle ne fait pas de politique.
Elle le dit bien.
Elle ne met pas de moralité là-dedans. Et quand on parle morale, on n'est pas loin de la politique. Et donc, elle est bercée par toutes ces histoires de business plan, de chiffres, de cotations, qui reviennent. Et il faut toujours faire toujours plus de chiffres d'affaires. Il faut acheter toujours plus d'entreprises. Elle est dans la fusion-acquisition, dans la cotation, dans tous ces mots nions qui nous barbent un peu, il faut bien le dire. Et donc, Aline, voilà, c'est ça. Elle est perdue là-dedans. C'est quelque part soporifique et ça évite de se poser des questions. Vous avez combien de personnes qui travaillent aujourd'hui dans des grandes entreprises ou des petites entreprises et qui font leur business? Leur business prend le pas sur tout le reste. Et
sur le sens.
Sur le sens, sur les conséquences de leur business. Je n'irai pas plus loin dans cette espèce de sentiment que j'ai. Je suis vaguement un peu anticapitaliste malgré tout, et Aline est comme ça, voilà, et elle ne se pose pas de questions.
Du reste, au début du livre, elle dit Time Expert, son entreprise, n'avait ni amis ni ennemis, elle n'avait que des intérêts. Aline y veillait scrupuleusement.
Tout à fait, c'est ça.
Ouais. Alors, pour revenir à Tantième, donc dans ce milieu des années 2020, début des années 2030, les forces de changement qui agissent sur la société, comme vous le dites, vous avez lâché le mot, hein, le capitalisme, sont de nature capitalistique. Il s'agit au fond des successeurs des géants du net actuels, les GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, etc. Mais maintenant, enfin en tout cas dans votre monde, Jean-Pierre Noté, il s'agit de Babel, on l'a dit, et de Time Expert qui sera transformé en Antimé. Ça, les lecteurs le découvriront. Mais en fait, ce que vous faites, c'est vous prenez les courbes et les graphiques et vous les prolongez, en fait. Vous démultipliez ce qui est en train de se passer actuellement, finalement, dans cette numérisation. Est-ce que par ce roman, vous faites de la prospective?
Alors, je ne crois pas. Si j'avais à qualifier ce livre, c'est toujours difficile de qualifier son propre roman, mais je dirais que c'est un roman historique. C'est-à-dire que, j'écris souvent des polars historiques, et celui-ci en est un aussi. Il ne fait que prendre la réalité d'aujourd'hui en augmentant certains critères, mais pas plus. Donc, un peu comme Ray Bradbury quand il disait finalement la science-fiction c'est la description de la réalité, et je crois qu'on est là-dedans dans la description de la réalité du libéralisme économique tel qu'il est vécu aujourd'hui.
Alors je ne vous ai pas googlisé, je ne sais pas si vous avez un smartphone dernière génération ou une enceinte Google chez vous, si vous pensez que le silicium est la solution à l'humanité, mais dans votre livre et en le lisant, j'ai trouvé des thèmes technologiques qui étaient évidemment très importants, mais qui ne saturent pas, au fond, le livre, parce qu'il est très lisible pour des gens qui ne sont pas très fondus de technologie. Mais ils servent l'intrigue et ils sont un peu les moteurs de l'action. Alors, l'un des premières choses, et on l'a déjà évoqué dans la première partie de l'émission, c'est le marketing, la privatisation, le mercantilisme. Du reste, en 2022, on a privatisé une couleur, alors orange. Voilà. Maintenant, c'est voilà.
Tout à fait.
Et vous dites, ça m'a frappé. Alors, est-ce que vous l'avez inventé ou est-ce que c'est vrai? C'est que Disney, en 2003, a déposé une marque pour Hakuna Matata. Moi qui ai des enfants, c'est le Roi Lion. Dieu sait si j'ai entendu Hakuna Matata, voilà, le royaume, qui veut dire en swahili tout va bien. Et donc je me suis dit, mais voilà, la privatisation du langage, c'est ça. En tout cas, que ce soit un exemple que vous ayez inventé ou que ce soit une réalité effective, il y a quelque chose d'un petit peu de fou, quoi.
C'est anecdotique, mais c'est absolument vrai. Ils ont privatisé l'expression Hakuna Matata. Donc si vous vouliez imprimer sur votre t-shirt Hakuna Matata, bah, il faudrait payer une redevance à Walt Disney.
D'accord.
Ce qui est quand même extraordinaire. Donc ça, on en revient à ce que nous disions précédemment. Ça n'est pas, ce livre n'est pas une anticipation, ça n'est même pas une exagération de la réalité. C'est une description de ce qui existe et qu'on peut éventuellement regretter.
Donc tout ce qui fait le réel est donc commercialisable. Et donc, vous le dites, c'est un peu dit dans le livre, mais l'éducation, la médecine, tout est valorisable d'un point de vue financier.
Alors, financier.
Mais tout est présenté d'une façon plutôt philanthropique à chaque fois. Et vous le dites très bien. Voilà, on dit, mais c'est pour le bien de l'humanité, pour favoriser les investissements au bon endroit, au bon moment.
Mais oui, mais... quand vous prenez Internet, c'est une révolution absolument extraordinaire. Moi, je me souviens quand j'étais jeune homme, étudiant, je trouvais que l'information était difficile à trouver. Par exemple, je ne sais pas, je suis passionné de nature et de champignons. La Bible du champignon, c'est un bouquin italien qui s'appelle le Romagnesi. Il pesait 10 kilos. On ne se balade pas dans une forêt pentue des Pyrénées avec 10 kilos dans la poche. Mais aujourd'hui, on se balade avec son téléphone et on a accès absolument à tout le savoir, même si on est au fin fond d'une forêt. Je trouve ça absolument fabuleux. Ça a un très bon côté. Mais après... n'importe qui peut savoir que je me balade dans la forêt. Ça, on n'en a pas forcément envie.
Eh oui. Alors, l'autre comment dirais-je, technologie qui est dans votre livre, Tantième, c'est la Tower Bay. La Tower Bay, donc c'est une enceinte connectée, hein, c'est qui existe en 2021. Alors, OK Google, Alexa, et là, on s'adresse autrement à cette Tower Bay. Est-ce que vous vous en souvenez?
Oui, on dit Tola.
Exactement.
Absolument, oui.
Et donc, ce qui est très bien dans votre livre, c'est que vous déconstruisez les mécanismes qui font que, dans le marketing, il faut que ça marche. Alors, je lis un extrait de votre livre, et c'est Aline qui s'exprime. On lui dit, mais pourquoi Tola? Pourquoi Tola? Et Tola, ça ne veut rien dire dans pratiquement toutes les langues de la planète. Il y a peu de chances que quelqu'un prononce ce mot et ça perd avec une Tower B ou Tower Fly par mégarde. Il faut le prononcer sous forme interrogative, sinon ça ne fonctionne pas. Plus loin, la sonorité du mot parle à des milliards de gens dans le monde qui, même s'ils ne pratiquent pas l'espagnol, connaissent le mot hola et l'associent à une entrée en matière, à un début de conversation. Le T est là pour appeler la Tower. Il fallait aussi faire oublier les anciens OK Google et autres Alexa, Echo et Amazon.
J'espère que j'y suis arrivé.
Oui, tout à fait. Il y a aussi l'idée dans la Tower, et parce que j'ai dit la Fly, c'est-à-dire qu'on est dans une pensée de l'innovation permanente. Il faut du nouveau. Et donc, cette Tower, c'est une enceinte connectée, mais tout de suite, on va... la transformer en une espèce de drone qui va tourner autour de vous, au départ comme une libellule, puis ensuite comme une coccinelle, toujours plus petite, toujours plus concentrée, toujours plus précise. Oui. On le lit dans votre livre qui a, je ne sais pas, c'est sur 2025-2030.
C'est ça.
2025-2032. Voilà, il y a 170 pages, 180 pages, mais vous faites passer, encore le talent de l'écrivain, vous faites passer voilà, cette innovation qui, au cours du récit, va se concentrer jusqu'au point de shipper
les gens.
Alors, Kezako.
Ah, mais là aussi, je ne suis pas vraiment en avance, je suis presque en retard avec ce livre. Donc, shipper, il s'agit de mettre cette Tower B, cet outil qui permet la communication absolument parfaite entre tous les gens de la planète, de la shipper directement dans le lobe de l'oreille. Dans le lobe de l'oreille gauche. Et on a atteint absolument la miniaturisation et la facilité la plus grande pour le client. Donc les gens vont se faire shipper.
Ah, il y a le caractère. En fait, c'est une puce et c'est une interface homme-machine. C'est-à-dire que finalement, on a Google dans la conscience, en fait. On peut interroger...
Tout à fait. On peut interroger Internet. On peut parler en simultané avec quelqu'un qui parle une langue totalement différente de la vôtre et se comprendre simultanément. Et alors, je voudrais simplement faire une petite remarque à ce stade-là. Encore une fois, j'ai été rattrapé par la réalité puisque j'imagine que tous vos auditeurs connaissent Elon Musk. Elon Musk a une société qui s'appelle Neuralink, dont l'objet est de shipper les gens. Et il attend actuellement l'autorisation de la Food and Drug Administration aux États-Unis, la FDA, pour réaliser les premières expériences. Alors, là encore, il y a un très bon côté. Hein. Donc, Neuralink, c'est fait pour que les gens puissent... les gens qui sont handicapés, à qui il manque une oreille, un œil, un bras, etc., ou l'usage d'un bras, plus exactement, puissent retrouver l'usage du membre manquant, du membre dysfonctionnant. Mais aussi, c'est fait pour faire une interface directe entre le cerveau humain et l'ordinateur.
Et oui, et l'interface peut ne pas être neutre. C'est-à-dire que quelqu'un peut manipuler l'interface. C'est ce que vous dites, c'est qu'à un moment, on ne dévoilera pas ce qui fait le suspense du livre et qui pourra aller jusqu'à des attentats, des gens qui se révoltent contre la technologie, etc. Mais lorsque les appareils vous écoutent et que vous les avez intégrés à vous-même, c'est bien difficile de les interrompre. Et lorsque certains de vos personnages voudront communiquer, ben ils reviendront à la lettre. Ils posteront des lettres,
justement,
pour s'extraire de cette hyper-technologie.
Oui, dans les pays où la poste existe encore.
Exactement. encore un petit extrait de votre livre, parce que c'est très bien balancé, c'est pas du tout caricatural. Et donc, quand Simon et Aline discutent ensemble et parlent de cette fameuse Tower Bay mobile, qui est entre le drone et la Tower Bay, je donne ce dialogue. Tu te souviens que tu parles à quelqu'un qui n'a pas de téléphone, c'est évidemment Simon qui parle. Ignorant la remarque, Aline continuait à vanter sa vision du progrès. Mais avec la Fly, tu peux suivre un cours sur la physique des particules tout en faisant ton footing, toujours la mise en avant des bénéfices. Tu peux aussi espionner ton voisin en toute tranquillité depuis ton canapé, répond Simon. Tu as la possibilité de sauver depuis Paris un enfant enseveli sous les décombres d'un tremblement de terre à Téhéran, renchérit Aline. Oui, tu peux tricher en jouant aux cartes avec tes amis. Et en fait, dans toute technologie, il y a les deux versants. Les effets collatéraux.
Oui, il y a les effets collatéraux. Et alors, moi, je me permets de faire une remarque parce que c'est vraiment le fond de la chose. Regardez ce qui s'est passé très récemment, juste avant les élections américaines. On a viré Donald Trump de Twitter. C'est absolument extraordinaire. Bon, alors on peut être d'accord ou pas d'accord. Très honnêtement, je suis plutôt d'accord. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qui l'a viré. Ça n'est pas du tout... quelque chose qui suit une loi qu'on aurait prononcée, qu'on aurait votée, etc. Non, non, pas du tout. C'est le patron de Twitter. Et ça interpelle. C'est-à-dire que, ok, on peut très bien applaudir à deux mains parce que Donald Trump ne s'exprime plus sur Twitter, mais de notre côté, on peut aussi être conscient que, finalement, le patron d'une grande entreprise privée a... pouvoir de vie et de mort symbolique sur les gens qui utilisent ces réseaux sociaux. Et ça, ça interpelle. Parce qu'on se dit, moi je suis né dans les années 60 dans un pays démocratique, etc., où on votait des lois, on était d'accord, pas d'accord. Mais en tout cas, on savait que le pouvoir était issu d'élections, etc. Et là, c'est fini. Le pouvoir est issu d'autre chose.
Oui, tout à fait. On sent dans votre livre l'absence de délibération démocratique à certains choix qui sont liés à une vision positive ou funeste du monde. Et même, voilà, vous faites, vous imaginez un G20 à Toulouse. C'est tout à la fin du roman, mais qui sont présents, en fait, les multinationales, le PDG. Et déjà, on le voit, c'est-à-dire que les médias rendent compte, vous parliez d'Elon Musk et puis du patron d'Alibaba en Chine, etc., presque à égalité avec les élus démocratiques des différentes démocraties occidentales. Ouais. C'est vraiment impressionnant. Et vous devancez mes questions parce que je m'imaginais vous poser cette question. Pensez-vous que ces hommes milliardaires tout-puissants sont poussés par un hubris, hein, l'outrance d'un comportement inspiré par l'orgueil, la démesure? Mais vous y avez répondu d'une certaine manière.
Je crois que la réponse est oui. Alors, je ne sais pas si on peut parler d'hubris, mais en tout cas... quand vous développez des technologies aussi puissantes, quand vous êtes en lien avec des millions, voire des milliards de gens, vous avez un pouvoir qui est d'une démesure absolue. Et même si vous n'avez pas d'hubris, dans les faits, vous pouvez faire énormément de choses. Et donc, vous pouvez influer sur le monde d'une façon absolument jamais vue dans le passé. Donc... Après, on s'en remet à ces gens. Donc, ouais. Ça peut être des gens très sympathiques et très bien, comme ça peut être des gens qui ne sont pas du tout sympathiques et du tout bien.
C'est vrai. et en fait, aussi, ce qui est très réussi dans votre livre, c'est que vous parlez du passé, vous faites une connexion vraiment avec le passé. Par exemple, vous dites, dans les années 2010, on affirmait déjà qu'en analysant 5 likes postés par la même personne, on la connaissait mieux que ses collègues de travail, qu'avec 10 likes... mieux que son meilleur ami, avec 50 likes, mieux que sa compagne ou son compagnon, et avec 100 likes, mieux qu'elle-même. Cette espèce de transparence, on est en 2010, vous êtes en 2030, elle s'est démultipliée, et on le voit à travers le roman, les gens sont transparents. Et quand on veut les dégommer médiatiquement, etc., je pense à cette pauvre Sarah Brit Hill, qui est journaliste et qui essaie un peu d'aller contre-courant, on va ressortir tout un passé sulfureux, comme si elle était vraiment transparente.
Oui, passé sulfureux qui a existé ou qui n'a pas existé,
c'est
d'ailleurs.
Ça, c'est ça, c'est ça. Tout à fait. Pour finir cette partie, je voulais aussi dire que, pour donner envie de lire, il y a des éléments très psychologiques, très intéressants. Cette Aline Regensberg, elle est un peu sur son chemin de rédemption, de conversion, à travers peut-être le lien qui va avec Simon Marchand, mais ça, je trouve que c'est très réussi, hein, que vous l'emmenez petit à petit à aller un peu...
Alors...
Est-ce que vous le voyez comme ça? Peut-être
je le vois tout à fait comme ça. Et je dirais que Simon Marchand, c'est évidemment sa mauvaise conscience. Hein. On pourrait dire que c'est presque le même personnage avec le côté face, le côté obscur et le côté plutôt lumineux. Mais en fait, ce que j'ai voulu faire passer, et j'espère que je l'ai fait passer, c'est que, en fait, cette femme, Aline, se retrouve son humanité dans la nature. Simon, c'est l'homme de la nature, c'est le pêcheur de truites, le montagnard.
C'est le rebelle. Il prend le maquis moment.
Oui, il prend le maquis. Il prend le maquis dans la nature. Voilà. Donc, hein. Et donc, il arrive à reconnecter quelque part dans le bouquin, grâce à une partie de pêche. Dans le Corvoux, il arrive à reconnecter cette Aline avec la nature, qu'elle a connue enfant. Et donc, on pourrait dire que c'est une rédemption à la Jim Harrison. Vous revenez à l'humanité parce que vous vous reconnectez à la nature. Vous revenez à l'humanité, en quelque sorte, parce que vous redevenez... l'homme redevient un animal parmi les animaux et se retrouve plus humain qu'il ne l'était avant. Et alors c'est une idée que j'ai profondément en moi, c'est-à-dire que on n'est jamais plus humain que quand on est dans la nature.
Très bien, en tout cas, oui, c'est ce qui transparaît dans la lecture de votre livre. Écoutez, je voulais vous proposer une deuxième pause musicale, et là il s'agit vraiment d'une pause musicale. Puisque nous allons écouter Nino Ferrer, La maison près de la fontaine.
« La maison près de la fontaine, couverte de vignes vierges et de toiles d'araignée. Sentez la confiture et le désordre et l'obscurité. Et les nids des oiseaux. On allait à la pêche aux écrevisses avec monsieur le curé. On se baignait tout nu, tout noir, avec les petites filles.
Parole d'auteur. Christophe Hyde.
Il s'agissait de Nino Ferrer, La maison près de la fontaine. Nous sommes de retour avec Jean-Pierre Noté. Alors j'aimerais aborder avec vous votre réalité d'auteur et interroger votre intérêt pour la création littéraire. Et pour cela, je ferai un petit détour à nouveau par votre livre « Tantième » aux éditions AZ Art Atelier Édition, dans lequel un coup d'éclat éditorial va captiver des millions de lecteurs à travers le monde et être la source de rebondissements inattendus. Je veux parler de la parution d'un best-seller mondial qui va pulvériser Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, par des records de vente. Il s'agit de Allô la Terre. Et je voudrais lire un extrait de votre livre. Il s'agit d'un dialogue où Aline parle avec une de ses amies. Les deux femmes parlèrent littérature. Elles évoquèrent l'insolent succès de ce roman dont personne, pas même Babel, n'arrivait à percer le secret. Allô la Terre s'affichait partout. Les libraires en proposaient des colonnes qui montaient jusqu'au plafond. Les journalistes spécialisés étaient unanimement dithyrambiques. Le roman de 800 pages tenait en haleine tout lecteur qui avait l'imprudence de s'aventurer à lire les premières lignes. Eh bien, moi je souhaite un succès à Tantième autant qu'à Allô la Terre.
Moi aussi.
Alors, on ne va pas dire quel est l'auteur, puisqu'on sait qu'il s'appelle Ival et qu'il veut garder un total anonymat, mais j'ai parlé de littérature dans un livre, parler du livre dans le livre, c'est un peu une mise en abîme. C'est pour parler, vous vouliez faire hommage à la littérature universelle, c'est-à-dire, est-ce qu'un livre est capable de captiver son lectorat, quels que soient les continents, quelles que soient les époques. Vous voulez faire un hommage à l'intertextualité aussi, parce qu'à un moment, Babel se met en chasse, il veut trouver le... Enfin, je vous laisse raconter, il veut trouver l'auteur.
Oui, tout à fait. Alors, il y a plusieurs choses là-dedans. L'idée première, c'était de montrer qu'avec l'intelligence artificielle, on peut faire beaucoup de choses. Et à nouveau, il y a à la fois ce côté très brillant et puis le côté obscur. Et donc, ce livre, Allô la Terre, plaît à tout le monde. Il plaît aux Indiens du Kerala, comme il plaît aux Chinois de Shanghai, aux Péruviens sur sa montagne, etc., etc. Et donc, ça interroge quelque part quelque chose qui peut plaire et qui peut parler à toutes les cultures. Je ne vais pas dévoiler effectivement qui est cet Ivan, mais il a utilisé des moyens numériques pour arriver à ses fins, des moyens extrêmement puissants. Et certes, c'est un bouquin qui plaît à tout le monde, mais est-ce que c'est pas le barycentre de toutes les cultures aussi? Donc est-ce qu'on n'est pas en train de moyenner la littérature en faisant quelque chose qui peut paraître intéressant à tout le monde? Voilà, c'était la question que je voulais poser. Et Alain Calife-Crantel, quand il comprendra comment ce livre a été fabriqué, dira « Non, c'est bon, quoi. On n'en veut pas d'autre, là. Mmh. » Parce que, voilà, on est plus dans le, comment dire, le multilatéralisme. On peut créer des livres qui plaisent à tout le monde. Et ça, ouais, c'est bien, à la fois. Et puis, de notre côté, c'est moins intéressant.
Ce qui plaît quand on a un livre, c'est la singularité de l'auteur, de ce qui nous est proposé. Et pour parler de votre singularité à vous, Jean-Pierre Nauté, j'aimerais savoir, puisqu'on arrive bientôt au terme de l'émission, qu'est-ce qui a fait que vous soyez passé à l'acte d'écrire, l'acte de se faire lire, et puis l'acte de se faire éditer. Quelle est, au fond, votre histoire d'auteur?
Alors, mon histoire d'auteur, c'est une histoire professionnelle. J'ai souvent dit que, dans ma vie professionnelle, j'étais écrivain public, comme les écrivains publics du 19e ou du 18e siècle. Donc, en fait, mon boulot, c'est de faire accoucher des accords entre des pays, entre des grandes sociétés, etc. Et c'est toujours très complexe d'arriver à rédiger un accord en comprenant la partie A, la partie B, éventuellement d'autres parties, etc. Donc, j'ai toujours été une espèce d'écrivain public et j'ai fait accoucher aux gens de leur histoire. Donc j'avais déjà ce goût pour la lecture, c'était malheureusement en anglais, je préfère largement le faire en français, qui est ma langue à moi. Naturellement pris la plume à la suite de ma vie professionnelle.
Et Tantième n'est pas votre premier livre, vous en avez d'autres, et quelle est sa place par rapport aux autres? En tout cas, qu'est-ce qui fait le lien entre... Vous avez écrit 3 romans. Hein.
Oui, c'est ça.
Voilà.
Ouais. Alors,
c'est 21 septembre et l'affaire Néandertal.
Voilà, alors très brièvement, 21 septembre est un polar historique qui se passe sur tout le XXe siècle et qui aboutit pour les Toulousains au 21 septembre, c'est-à-dire l'explosion d'AZF. Et l'affaire Néandertal, c'est un bouquin qui me tient particulièrement à cœur, qui lui évoque une scène de crime entre un homme de Néandertal et une femme cromagnon. Donc, j'adore la préhistoire, c'est mon dada. Et pour ça que la scène de crime dans Tantième commence par une lame de silex. Je n'en dirai pas plus.
Bon, j'espère que vous avez des projets d'écriture et que vous
J'en
lui donnerez...
J'en ai un en ce moment.
Ah, très bien. Vous serez invité à Radio Présence pour en parler.
Et je vous remercie.
Voilà. Et pour conclure, je voudrais dire que dans le livre que vous nous donnez, Jean-Pierre Nauté, on prend la mesure de la fragilité de l'humanité qui est à préserver, de l'infaillibilité de la technologie. Cette technologie n'est pas neutre, elle dépend de nos usages et de la part de liberté que nous lui abandonnons. Votre livre est un très bon moment de lecture avec du suspense, avec un ressort très tendu. Et sans me changer en bonimenteur, il y a une histoire d'amour, de l'humour français et loin de tout académisme, des jeux de pouvoir à l'international et une réflexion sur l'avenir que nous sommes en train de bâtir ou de nous laisser imposer. Voilà, c'est toute la richesse de ce livre que j'espère, pour lequel j'espère nous avons donné envie aux auditeurs de... de le lire. Et je vous remercie, Jean-Pierre Nottet, d'être venu au micro de Parole d'auteur.
Je vous remercie aussi et merci pour cet excellent résumé.